Jean-Marie de Rumenac, est-ce qu'il y a des choses fondamentales auxquelles vous croyez, jeune homme, vous ne croyez plus?
Le fondamental, non. Si, pourtant, oui, la révolution. Mais est-ce que c'est fondamental? Moi, j'y crois encore, mais j'y crois autrement, à une autre distance, à une autre longueur de temps. Mais j'y ai cru, jeune homme, c'est-à-dire de 18 à 23 ans, j'ai cru qu'on pouvait vraiment changer la société, qu'en changeant la société, on changerait la vie, et puis il s'est passé ce que tout le monde connaît. Ça, je n'y crois plus. J'y crois autrement, comme Emmanuel Mounier y croyait lorsqu'il a lancé la revue Esprit en 1932 et qui disait « La révolution sera spirituelle ou elle ne sera pas ». Mais ça, c'est plus difficile et ça prend plus de temps.
Est-ce que ça a été déchirant de ne plus y croire?
Oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai marché avec les autres, entre 1942 et 1947, par-delà ces barricades, la liberté nous attend. Dans les champs inondés de lumière, nous marchons tous d'un cœur nouveau. Tout ça, j'y ai cru vraiment. C'était le grand enthousiasme et la grande erreur que nous avons faite. Et nous l'avons faite comme on fait tellement d'erreurs en politique, plutôt par générosité que par méchanceté.
Mais ça n'empêche pas de faire du mal, quand même, et de...
Non, c'est bien ce que j'ai découvert, c'est les effets pervers, comme disait sociologue, disons plus simplement que la tentation de faire le bien est une chose terrible. Vous voyez, il y a une phrase de Lacan, terriblement méchante, que je vais citer, parce qu'au fond, elle, à mon avis, elle s'applique mieux à la politique qu'à l'amour. Lacan dit « L'amour consiste à donner ce qu'on n'a pas à des gens qui n'en ont pas besoin ». C'est affreux, hein ?
Oui, c'est affreux.
Affreux. Non, ça, je crois, l'amour, toujours. Je crois qu'on peut donner des choses qu'on a à des gens qui en ont besoin. Mais en politique, je serais porté à me méfier maintenant des gens qui veulent trop donner d'eux-mêmes, car c'est peut-être ça que j'ai découvert durement et un peu tristement, c'est que le pouvoir a sa loi, que cette loi est féroce, c'est que la société un animal pachydermique, c'est lourd, et puis l'enthousiasme, la liberté, l'oblativité que nous avons connue quand j'avais 20 ans, vraiment, ma vie ne m'importait pas énormément, enfin comme à tout le monde, mais j'étais vraiment prêt à mourir pour la cause. Maintenant, bon, je suis un peu aussi comme les autres, c'est-à-dire moins disposé à sacrifier ma vie pour la révolution, pour le changement. Je ne crois plus que, comme le disait un slogan emprunté à Rimbaud, que le Parti Socialiste a emprunté à Rimbaud en 1981, je ne crois pas que changer de gouvernement, ce soit changer la vie.
Oui. Mais ce qui a été difficile, c'est qu'à une période de votre vie, et quand vous étiez jeune homme et après, c'est que vos convictions personnelles et vos convictions, disons, sociales ou politiques, se confondaient.
Oui, et mes convictions religieuses aussi.
Voilà. Et il a fallu faire des distinctions, je suppose.
Oui.
Faire des déchirements.
Quand on vit, d'abord quand on est tout jeune, et j'ai commencé tout jeune à 13-14 ans à m'enthousiasmer pour la patrie, pour la politique, et puis après l'histoire m'a pris par la main, puisque j'avais 20 ans en 1942, eh bien à ce moment-là, il faut pas se désunir, il faut être cohérent avec soi-même. Il faut s'engager totalement. Quand je relis les lettres que j'écrivais à cette époque, sorte d'incroyable enthousiasme qui nous avait pris face à la mort, face à la torture, je me dis que nous avons eu les grâces d'État ou les grâces d'événements, mais ça a été notre risque en même temps et d'une certaine façon notre faiblesse que d'avoir trop cru que par la seule générosité, par la seule oblativité, nous pourrions changer le monde. Nous, au fond, nous pensions qu'il y avait tellement de richesses dans les hommes. Notre idée, c'était celle de Bernanos. Combien d'hommes, disait-il, vivent à la surface d'eux-mêmes? On attribuait ça à la bourgeoisie. On croyait que c'était les bourgeois qui avaient accaparé le spirituel et que les gens ne pouvaient pas vivre, qu'ils étouffaient. Alors, notre idée, c'était de les libérer, pas seulement politiquement, mais d'abord culturellement, c'est-à-dire de leur apprendre la beauté, de leur apprendre la passion de la vie. Et puis alors, nous avons été pris de court par, par la société de consommation, parce que les gens ont reçu autre chose que ce que nous voulions nous donner. Nous sommes restés avec nos trésors sur les bras. Oui.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de paternaliste dans cette vision ?
Si, fraternaliste, si vous voulez, plus que paternaliste. Mais oui, paternaliste. Je ne le dirai pas pour les premières années, vraiment, lorsque j'ai dans la... le maquis, j'appartenais à des groupes qu'on appelait équipe volante qui allaient de camp en camp pour éduquer, oui, pour apprendre la poésie, pour apprendre les chants, pour c'était une retrouvaille avec notre pays à ce moment-là.
Oui, mais vous étiez là, vous étiez dans l'action.
J'étais dans l'action, mais c'est après, voilà. Quand je suis devenu un intellectuel,
observateur,
oui, que j'ai cru que je détenais la vérité et le bien surtout. Le bien, le vrai, le juste, et maintenant, je me rends compte, oh non, je ne fais pas d'autocritique, ça ne sert à rien, mais que nous nous sommes trompés comme tout le monde sur un certain nombre de points, mais c'est cette attitude qui était malsaine, n'est-ce pas ? Vraiment, vraiment, cette croyance que, et parce que nous nous étions vraiment au service des autres, nous pensions que nous étions meilleurs. Ça, c'est pas sain.
Et ça a été long.
Ça a été long, oui, jusque peut-être dans les années 60. Oui, le grand choc pour moi, je vais peut-être vous surprendre, la période la plus dure de ma vie, ça n'a pas été la résistance, ça a été la guerre d'Algérie. Parce que j'étais patriote et c'était mélangé pour moi, c'est la révolution, les droits de l'homme, la France, tout ça, ça faisait un paquet. Hein. Et puis en 1956-57, j'ai dû admettre qu'il y avait dans l'armée française des hommes qui se conduisaient aussi mal que les nazis. Et ça, c'était très dur pour moi, parce que entre 40 et 44, ça ne faisait pas un pli. Nous étions contre les Allemands, c'est-à-dire contre les nazis, c'est-à-dire contre les ennemis de l'humanité. La cause de la France était identifiée, une fois de plus, avec, du moins théoriquement, avec celle de la liberté du monde. Tandis que là, mon pays était en guerre contre un autre peuple et il y a des gens qui se conduisaient très mal.
Oui. Mais même au moment, de la guerre, toute la collaboration, tous les collaborateurs en France seraient dû vous donner une image de vos...
Non, pas du tout, parce que, excusez-moi, mais l'histoire de France, c'est d'abord l'histoire des guerres franco-françaises, c'est une histoire de guerre civile, justement parce que nous imaginions porter l'universel, la lutte des idées se déroulait entre les amis de l'humanité et les ennemis de l'humanité, chez nous. Elle nous coupait en deux. C'était une petite minorité de fascistes, de gens répugnants que nous allions balayer. Il n'y avait aucun doute sur la justesse de notre cause. Vous savez, la France, au cours des siècles, s'est souvent réduite à un petit reste. C'est toujours Jeanne d'Arc, et puis ça a été De Gaulle, c'est toujours ce mouvement-là. Tandis que pendant la guerre d'Algérie, il a bien fallu admettre que la majorité des Français ne résistait pas vraiment à... elle approuvait les excès, les abus qui étaient commis en son nom. Ça, c'était très rude pour moi, oui.
C'est le doute, au fond, qui s'est installé.
Le doute et la séparation entre ces grandes causes, et puis la conscience que j'ai dû prendre que mon pays n'était pas... n'était plus le grand pays auquel j'avais cru, auquel j'avais identifié tant d'autres causes, n'est-ce pas ? Ça, c'est douloureux. Je crois que les quelques erreurs que nous avons faites, je dis nous, mes amis d'esprit, un certain nombre d'intellectuels, je pense à Emmanuel Mounier, à beaucoup d'autres, nous les avons faites par nationalisme, vous voyez. C'est parce que nous n'avons pas imaginé que le Parti communiste français pouvait ressembler aux autres partis communistes.
Parce qu'il était français.
Parce qu'il était donc héritier de la Révolution française. Au fond, ce qui nous a portés, mais en même temps ce qui nous a nuit, c'est cette mythologie de la Révolution française. Et je crois que le grand traumatisme en France en ce moment, c'est la rupture qui est en train de se produire entre l'intelligence française et ce récit légendaire, ce récit fondateur de la Révolution. C'est ça le plus important en France en ce moment. C'est pas la rupture avec Marx, avec Staline, il y a longtemps d'ailleurs que c'est fait, ou avec Georges Marchais. C'est la rupture avec Danton et Robespierre.
Est-ce que au moment où vos opinions politiques ont été secouées, votre nationalisme a été secoué, est-ce que au même moment, vos convictions religieuses l'ont été également.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah non, au contraire, je dirais, je me suis rendu compte à quel point, sans avoir jamais été chrétien progressiste, sans avoir jamais invité les autres à voter au nom de l'Évangile, j'avais quand même, ça ne faisait qu'un, pour moi, l'enseignement de la chaire évangélique de la charité et l'engagement dans la politique. C'était pour l'amour de ceux qui souffrent, de ceux qui sont pauvres. C'était une lutte idéale contre la justice sociale, assortie bien entendu d'analyses sociales poussées. Mais lorsque j'ai découvert ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le méfait de la générosité lorsque des idées justes ne l'accompagnent pas, lorsque j'ai découvert que mon pays n'était plus ce que je croyais qu'il était, alors à ce moment-là, au contraire, foi chrétienne est devenue plus pure. Non, je ne dis pas qu'il me reste que ça. Non, j'ai toujours la foi de mes 16 ans. C'est qu'on peut rendre les hommes meilleurs. Mais par la pédagogie, la culture, par l'exemple, par le modèle, j'ai toujours cette idée-là. Indéracinable, je crois, et je pense qu'elle a un fondement chrétien, malgré tout. Mais la parole de Dieu, c'est pour moi... elle s'est dégagée de toute cette gangue sociale et politique, n'est-ce pas? C'est plus dangereux, voyez-vous, de fait. La gauche chrétienne, en un sens, c'est plus dangereux que la droite chrétienne. Pourquoi? Parce que idées de gauche sont généreuses. Non, parce que les idées de gauche sont généreuses.
Parce que la mauvaise conscience, et que la mauvaise conscience, ça peut nous entraîner loin.
Oui, parce que, oui, on reste dans ce domaine de la... des bons sentiments et qui se retournent en mauvaise conscience. Mais mauvaise conscience, je ne l'ai absolument pas. J'ai changé. Voilà. J'ai changé. Nous reparlerons tout à l'heure de Dieu, si vous voulez.
Bien sûr.
Pour le moment, je songe à ce qui a été mon engagement. J'ai tiré les conséquences dans les années 70, non seulement de ces erreurs, non seulement de ce mélange abusif de la foi et de la politique, mais du changement de climat qui est intervenu en France depuis 1955, disons dans les années 60, 70. Nous sommes passés d'une époque où la conviction dominait l'action à une époque où l'individu suit son propre choix, où il croit suivre son propre choix, l'individualisme, l'hédonisme, la baisse de la foi, quoi, générale, qui a atteint toutes les convictions, et d'abord l'intellectuel lui-même.
Oui. On a l'impression que l'individualisme maintenant est exacerbé. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Tout à fait, oui. Oui, nous sommes, après l'effondrement des grandes idéologies de l'histoire, des grands enthousiasmes collectifs, maintenant il ne reste plus qu'une idole, c'est l'individu. Je ne dis pas ça en bien ou en mal, il y a du bien et du mal. La publicité des magasins du printemps à Noël m'avait beaucoup frappé. Suivez la nouvelle mode, deux points, le style moi. Le style moi, c'est être à la mode, être soi. Vous voyez, le paradoxe extraordinaire qui est celui de notre société, c'est-à-dire que chacun doit être lui-même, mais chacun étant lui-même, tous deviennent semblables.
De quelle façon ça vous rebute?
Hop, c'est une société qui m'épouvante parce que elle prétend cultiver la différence, mais elle est anthropique. Anthropique, je veux dire, vous savez ce que c'est, hein, le chaud et le froid se mélangent et puis ça fait de l'eau tiède. C'est ce que Mounier craignait avant tout, cette gelée fade, comme il disait, ce que Bernanos a insulté dans notre société, c'est comment dire, sous le nom d'ailleurs d'individualisme, des comportements qui sont finalement des comportements très conformistes. Alors la fin de la différence, vous voyez, la grande mode aujourd'hui à Paris, c'est, il y a des journaux qui titrent là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme? Bon, s'il y en a une, il paraît que c'est pas évident, il faut la supprimer, n'est-ce pas? Il faut la supprimer parce que nous marchons à l'égalité. Et que l'égalité de la femme avec l'homme ne sera vraiment accomplie que lorsque les hommes enfin pourront accoucher par quelles acrobaties génétiques, je vous laisse le soin de le deviner. Cette idée me fait horreur, non pas seulement à cause des, comment dirais-je, de ce qu'elle représente comme type de médecine, mais l'idée que dans une culture, hommes et femmes puissent devenir identiques.
Et que ça soit un idéal.
Mais oui, que ça soit un idéal, qu'il n'y ait plus cette bipolarisation qui a été essentielle pour tant de cultures. Alors, tout s'en va vers une sorte d'égalisation monotone. Il n'y a plus d'uniforme, n'est-ce pas? Bon, peut-être que ces uniformes étaient quelque chose d'abusif, mais il y a de moins en moins de différences. Et comme l'a dit un grand sociologue français, Louis Dumont, les avocats de la différence se trompent s'ils veulent à la fois l'égalité et la différence. Alors, mon problème est là, notre problème...
J'allais dire que votre problème, c'est de vous sentir un peu marginal par rapport à ce oui, mouvement-là.
Oui, exactement.
Non, ce qui n'a pas été votre...
Oui, et plus précisément, c'est que... Est-ce que je suis de gauche? Je me le demande souvent en ceci que... Est-ce que je n'ai jamais été complètement? D'ailleurs, j'ai commencé ma vie active à l'école d'Uriage en 1941, qui était une école de cadre, comme on disait, qui prônait l'élite. L'élite, ça n'est pas l'élitisme. Mais je continue de croire qu'il y a une revendication de la différence qui est bonne et que si l'égalité, si je tiens fondamentalement à l'égalité, d'abord à l'égalité de droit inscrite dans la déclaration de 1789, je m'interroge beaucoup sur le type de société que produira cet égalitarisme.
Oui. Cet égalitarisme, au fond, dans votre perspective, c'est un égalitarisme qui va contre la liberté.
La liberté d'être contre différent. Contre le désir de la liberté, oui. Contre l'amour de la liberté, contre finalement...
Parce que la liberté, c'est la différence.
Oui, mais contre finalement la volonté d'être soi, le besoin d'être soi. Alors c'est là où...
C'est paradoxal espoir. En même temps.
Mais c'est dans ce paradoxe que nous saisissons notre société. Je crois qu'elle est mimétique, comme l'a dit René Girard, qui est un de nos grands intercesseurs. Elle est mimétique, ça veut dire que chacun imite l'autre, qu'il imite l'autre indéfiniment, et notre désir est constamment orienté par le regard de l'autre, de sorte que nous croyons être, au moment où je crois être moi-même, je ne fais que obéir aux injonctions dissimulés sous la publicité, sous la culture des autres, ou de ces gigantesques appareils qui me prend en charge et qui est en train de prendre en charge ce besoin d'être soi.
Oui. Mais comment, dans cet univers nivelé, comment les revendications justes des minorités souffrantes peuvent-elles arriver à triompher?
C'est bien la question que je me pose tout le temps. À propos de pays que vous connaissez, à propos de la Pologne, où mes amis sont en prison, cela, notre bonheur se paye de cette souffrance, de cet écrasement, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, je vois que c'est la société où je vis est celle du contentement. Hein ? Il faut bien le reconnaître, malgré les 3 millions de chômeurs, c'est une chose extraordinaire, les gens, même si ils sont agressifs, rouspéteurs, ils sont contents. C'est la première fois que les Français adhèrent aussi massivement à leur régime politique, à leur mode de vie, et par là même, nous nous désintéressons. Et je crois que c'est une de nos fonctions. Je ne me rendais plus comme intellectuel, je vous l'ai dit, j'ai fait une sorte de conversion tardive, puisque à l'âge de 56 ans, quittant la revue Esprit, je suis entré comme professeur à l'école polytechnique, professeur de sciences sociales, j'ai fondé un centre de recherche épistémologique, c'est-à-dire sur les sciences de la société et les sciences de la nature, mais je garde toujours cette obsession des peuples écrasés dont on nous parle à la télévision, à la radio, dans les journaux, mais pour lesquels finalement nous ne pouvons presque rien. Tellement le système est bouclé aujourd'hui, le système mondial est bouclé et maintenu de l'extérieur par le péril atomique, et le système national est bouclé lui aussi, maintenu de l'intérieur par la peur de la faillite, la peur du désastre économique.
Oui, mais en même temps, la démocratie a fait quand même des pas énormes.
Oui, elle en a fait, bien sûr.
Ah, mais les droits de la personne,
oui, mais
en sont une expression.
Je ne vous dis pas que les choses aillent plus mal. Il y a un point sur lequel je
suis... Mais quand c'est bouclé, c'est un cul-de-sac.
Non, parce que il y a l'événement qui ouvre la porte à un moment ou l'autre, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui m'inquiète. Nous vivons dans une culture qui proscrit l'événement. La culture française est une culture extraordinairement alambiquée qui nous a donné une vision très pénétrante du fonctionnement des signes, de la grande machine, et surtout de cette grande machine à fabriquer des faux-semblants, qui est la machine médiatique. Mais c'est une culture qui n'a presque plus de contact avec le spirituel. Il n'y a plus qu'un grand écrivain catholique en France, c'est Julien Green, et il a dépassé les 80 ans. On dirait que la culture a fait sécession d'avec la vie chez nous. Et moi-même, d'une certaine façon, vous voyez, j'ai renonçant à être l'intellectuel que j'étais, que je pouvais continuer d'être, je me suis recyclé en quelque sorte.
Parce que la culture médiatique, c'est la culture de l'image, c'est la culture du paraître, ce n'est plus la culture de l'être.
Bien sûr, oui, mais la culture de l'être ne peut s'adresser, elle peut être aussi, elle peut emprunter aux médias. Je ne suis pas du tout un contenteur des médias, mais tout ce tohu-bohu nous détourne de l'essentiel, de ces clairières de l'être, comme disait Heidegger, de ces endroits où l'on peut réfléchir et prier.
Mais au fond, c'est parce que la télévision, par exemple, a quelque chose de trivial, et c'est en ce sens-là qu'elle est contre l'être, d'une certaine façon.
Oui, c'est, je dirais qu'elle appartient à ce grand mécanisme où il est difficile de dénoncer plutôt ceci que cela, cette grande machine.
C'est le nouveau mythe.
Oui, c'est la grande consommation des signes, et après tout, si on sait s'en servir, c'est bien, non ? C'est aussi une machine à faire réfléchir. Hein. Parfois, j'ai vu un visage à la télévision, j'ai entendu une parole, non ? Mais pour le reste, c'est un grand spectacle.
C'est une liturgie ?
Oui. Oui, parce que en effet, il nous faut des prêtres de remplacement. Il y a ces psychanalystes, il y a chez nous les journalistes de la télévision. Voilà.
Hein ? Mais les valeurs qui sont derrière, quand même.
Ah ben, les valeurs, on n'en parle pas. De quelle valeur ? À quelle valeur pensez-vous ?
Mais quelles sont les valeurs qui sont derrière la télévision, selon vous ?
Ah, toutes les valeurs, c'est... toutes, en un certain sens, peuvent y apparaître sous des traits humains.
Mais pourquoi certaines passent si mal la rampe ? Pour utiliser un langage de théâtre.
Parce que je crois... C'est vrai, j'y avais pas pensé. Je crois que il y a... que les valeurs de la vie intérieure, que la vie intérieure n'est pas spectaculaire, n'est-ce pas ? Et il faut, de temps en temps, elle apparaît à travers le visage de Mère Teresa, par exemple, de Sœur Emmanuel, qui s'occupe des misérables en Éthiopie, à travers parfois une scène tournée dans un couvent qui nous donne l'idée d'autre chose. C'est d'ailleurs un des points qui m'étonne le plus dans toute cette vie qui nous entoure, c'est que elle fabrique une sorte de bonheur universel et qu'elle côtoie des misères qui sont non seulement extérieures, je pense au tiers-monde, à la faim et aux guerres du Moyen-Orient, je pense aussi à l'oppression dans l'Europe centrale, mais des misères intérieures dont rien ne nous est dit. Il n'y a rien ou presque qui nous aide à affronter la mort, la souffrance, mais la vie aussi. Ce qui me frappe énormément, vous voyez, c'est à quel point le proche, l'intime, pour dire, s'est éloigné de nous et est devenu un monde pour lequel nous n'avons plus de voile. plus de paroles, plus de langage, presque. Si vous vous triez les, si vous examinez le vocabulaire, vous apercevez que les mots qui désignent ces choses intimes ont disparu, ridiculisés ou bien oblitérés.
Oui. Il y a des mots effectivement qui sont surannés, qui sont ringards, comme vous le dites ici. Le mot devoir.
Oui, le mot âme, le mot honneur, le mot chasteté, le mot je ne sais pas moi.
Et on ne parle plus de l'agonie, on parle de la phase terminale.
Oui. Mais lorsque l'homme est mis en face de lui-même par une décision, par un événement, alors à quoi peut-il se raccrocher, puisque l'enseignement, il n'y a pas un enseignement de ce qui est intime, de ce qui est fondamental, de ce que les mères apprenaient autrefois à leurs filles, de ce que le village apprenait autrefois aux enfants. Je suis très frappé en France de cela, j'imagine que ça doit être un peu la même chose chez vous, de cet exil à l'égard de soi qui caractérise la plupart des adolescents actuels qui ne savent plus d'où ils sont et qui ne s'interrogent pas non plus pour savoir où ils vont. Le problème de notre société, il est là. Je crois que ce que la culture française est en train de découvrir aujourd'hui, dans le succès du mot, la modernité. Tout le monde parle de la modernité. Moi-même, je fais mon cours sur la modernité à l'école polytechnique. Pourquoi ? Parce que nous ressentons avec 2 siècles de retard les conséquences de cette coupure formidable qui est intervenue à la Révolution française. En tranchant la tête du roi, nous avons coupé avec la transcendance. Par conséquent, notre société doit continuellement se donner à elle-même ses propres lois. Mais alors, pour faire ces lois, il faut avoir une communication avec quelque chose, avec des valeurs, comme vous disiez, avec Dieu ou avec des valeurs. Et c'est pourquoi nous sommes entrés maintenant dans cette phase d'anxiété. La pénurie, la crise nous y aide, et puis l'impression de nihilisme que donne notre culture, que donne le terrorisme. Nous ne savons plus sur quoi fonder cette société. Les Américains, enfin les États-Unis, ont moins cela parce qu'il reste une religion civile. On parle du bon Dieu un peu partout. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays d'ailleurs. Mais la laïcité devient très difficile à vivre lorsque on ne se raccroche plus à une transcendance. Très curieusement, les intellectuels français sont en train de faire rentrer Dieu dans leur culture. Ils se rendent compte que cette liberté, cet engagement, que là, simplement, l'existence de la cité exige un fondement.
Mais laïciser Dieu, c'est le nationaliser.
Pas forcément. D'ailleurs, il ne s'agit pas tellement de le nationaliser. Je crois que c'est à travers la conscience de chacun Oui. C'est pas forcément le nationaliser. Oui, il y a un mot de Madame Zölle, cette intellectuelle allemande, qui m'a toujours frappé. Il dit « Atheistischen Gott zu glauben », c'est-à-dire croire en Dieu de façon athéiste. Athée, de façon athée. Eh bien, c'est la condition de beaucoup de mes compatriotes. Ce n'est pas la mienne, n'est-ce pas ? Encore que je ne prétende pas échapper totalement à cet athéisme nanti qui est le nôtre, cette sorte de distance que nous avons prise avec le spirituel, avec Dieu, cette aliénation, comme je vous le disais, à l'égard de ce qui est intime. Et pour moi, l'intime, l'intériorité, je ne la dénie pas à ceux qui ne croient pas, mais je pense qu'elle exige ou Dieu ou un reflet de Dieu, qu'on le nomme valeur, qu'on le nomme justice, vérité.